Totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai été en combinant les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, c'est l'heure de Parole aux auditeurs, une émission qui vous donne l'opportunité de vous exprimer sur les zones de Radio Sapi et d'être entendu partout à travers la RDC dans le monde. Ce dernier numéro de Parole aux auditeurs de la semaine est consacré à la lutte contre la torture. Demain, samedi 26 juin, est la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Au cours des 50 dernières années, la lutte contre la torture est devenue un sujet de préoccupation essentielle relevant des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans son article 5, est le premier texte juridique international où la torture est déclarée illégale de manière spécifique. La RDC connaît des cas de torture, que ce soit dans les milieux d'incarcération ou dans d'autres milieux en société. C'est par exemple à Goma, 47 cas de torture, dont la plupart sont enregistrés dans les lieux de détention sous contrôle de la police, ont été rapportés depuis le début de l'année, de cette année, par l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et c'était une déclaration qui a été faite le jeudi dernier. Quelle est la situation chez vous et que faire pour mettre fin à cette pratique? Voilà deux questions qui lancent notre émission. Parole aux auditeurs invités pour vous, M. Polycarpe Mongoulou. Il est sénateur et initiateur d'une proposition de loi portant criminalisation de la torture. Ce sujet vous intéresse? Contactez le 081-899-6315 ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiotapi.net. Kiki Poutou, Belia Massinda et Nicole Data sont à la réalisation de cette émission et Mimi Kindou est à la mise en œuvre.
Radio Okapi est aussi avec vous sur la solution. En direct avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parler, nous transmettons. Proposer, nous discutons. Parole aux auditeurs. Le lundi à vendredi dès 11h et mercredi à 10h lors de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Encore une fois, bonjour, bonjour monsieur le sénateur.
Bonjour madame.
Vous êtes initiateur d'une proposition de loi portant criminalisation de la torture. Autant dire d'abord que le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne afin notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou qu'une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis et d'intimider ou de faire pression sur cette personne aussi pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle que soit qu'alors telle douleur ou telle souffrance soit infligée par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou son instigation ou avec consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Donc la torture a plusieurs définitions assez difficiles, mais en gros ce qu'on peut retenir ce sont des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales qui sont intentionnellement infligé à une personne afin d'obtenir d'elle en fait certains renseignements ou aveux ou bien de pouvoir la punir. Voilà en gros ce qu'est la torture. Mais vous avez initié cette proposition de loi pour nous savoir pourquoi.
Oui, la première chose que je devrais vous dire, c'est de vous remercier de m'avoir invité à votre émission. J'en profite pour saluer tous vos auditeurs qui nous écoutent à ce moment et qui nous consacrent un peu de leur temps. Votre question est très pertinente En réalité, c'est beaucoup de personnes qui ont travaillé depuis longtemps sur l'abolition de la torture à travers le monde.
Mmh.
Et il se trouve aussi dans notre pays des personnes qui ont lutté pour cette abolition. Et notre pays a fini par adhérer à la Convention internationale sur l'abolition de la torture, de sorte que notre pays s'est engagé effectivement à lutter contre la torture à travers l'ensemble de notre pays.
Mmh.
Et c'est ainsi que, dans un premier temps, après avoir adhéré, on a mis du temps pour déposer les instruments de cette adhésion. Et j'ai été parmi les personnes qui ont lutté pour que ces instruments soient effectivement déposés. Et vous verrez que les dates entre l'adhésion et la date de dépôt des instruments, il y a eu un temps...
Est-ce qu'il y avait un vide juridique concernant la torture dans nos lois?
Oui, effectivement, dans nos lois, dans notre code pénal, ce qui a été réprimé, c'est non pas la torture, mais des arrestations et détentions arbitraires.
Mmh.
Alors, les arrestations et détentions arbitraires pouvaient être accompagnées de torture. Les actes de torture n'avaient jamais été auparavant définis, mais les juges, en condamnant pour arrestation ou détention arbitraire, pouvaient voir s'il y a circonstance aggravante. Donc la torture était comme tout simplement une circonstance aggravante.
Donc ce n'était pas une infraction en soi.
Sui generis, non.
C'était
tout simplement l'arrestation, la détention accompagnée de torture. À ce moment là-bas, il y a circonstances aggravantes, donc c'est la détention qui était punie, mais plus sévèrement lorsque il est accompagné de torture.
Donc une personne qui venait se plaindre si elle est victime de torture n'était pas prise en compte.
Voilà. C'est-à-dire qu'on devrait d'abord vérifier s'il y a eu arrestation ou détention.
C'est assez difficile. Mais aussi, on voudrait savoir, monsieur le sénateur, c'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons de la torture. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a plusieurs victimes en RDC qui sont victimes de torture, personnes qui sont victimes de torture?
Oui, c'est-à-dire que c'est une mentalité. C'est nous, lorsque on vous prend au défaut, c'est-à-dire que lorsque vous avez causé un accident grave qui a émis des gens, on essaie de vous attraper et de vous punir.
Mm-hmm.
Et lorsque quelqu'un a volé, on a tendance à taper. C'est une mentalité contre laquelle il faut lutter tous les jours.
Tous les jours.
Voilà, donc si vous voulez faire une sorte de statistique, C'est énorme. Donc, c'est à partir des écoles et tout ça, dès la naissance, il faut absolument lutter contre la torture. Donc, c'est une mentalité.
Et cette proposition de loi, elle se trouve pour l'instant quel niveau?
Elle a été transmise à l'Assemblée nationale pour la deuxième lecture. Vous savez qu'il y a une navette entre le Sénat et les choses. Le Sénat l'a voté, à l'unanimité d'ailleurs, et ça a été transmis depuis le 21 avril. À l'Assemblée nationale.
Maintenant, le temps que l'Assemblée nationale puisse aussi en discuter.
Voilà.
Et après, s'il y a une modification, il y aura une commission paritaire.
Et je crois que ça sera assez vite fait parce que ce n'est pas très long.
Donc, dans quelques mois, peut-être à la session prochaine.
Je pense qu'à la session prochaine, ça pourrait être ça.
Merci beaucoup. Nous restons avec vous. Nous allons écouter aussi les auditeurs, ce qu'ils pensent en fait de la torture et qu'est-ce qui se passe chez eux.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Arsène. Arsène?
Oui, je suis à l'écoute.
Si vous êtes à Kikwit, dites-nous, est-ce que vous connaissez des cas de torture chez vous?
Ok, je commencerai d'abord par définir la torture elle-même.
Mm-hmm.
La torture, c'est un acte à réprimer, c'est dégradant. Et c'est ridicule.
Mmh.
Mais il y a plusieurs formes de torture. Nous les vivons chaque jour, surtout dans nos maisons de justice, dans nos maisons de justice, je voulais dire.
Mmh.
L'applicabilité de cette torture est physique comme morale aussi. Il y a souvent des faiblesses dans des enquêtes et les hommes de la justice, souvent, ils font recours à la torture, morale comme physique.
Mmh.
Alors, je félicite les sénateurs, le fait qu'ils ont eu cette initiative et que la loi va être d'ici 2 ou 3 mois promulguée, mais le problème se pose au niveau de l'applicabilité même de cette loi-là. Il faut apprendre à nos agents, à la population, que la torture n'est pas un l'acte qu'on peut accepter. Mais si vous vous retrouvez dans des écoles militaires, dans des écoles de police, vous allez vous retrouver avec des cours. On apprend les gens comment torturer. Il faut commencer d'abord par éliminer ces cours-là, par faire voir à la population et à nos agents que c'est un acte qui dégrade l'homme, qu'on ne peut pas, comme ça, de rien, pas vous recueillir une information, si vous êtes incompétent par d'autres façons de faire une enquête, recourir à la torture. Mm-hmm. Moi, je veux bien appuyer l'initiative du sénateur et l'initiative de notre Parlement pour ce qu'ils sont en train de faire, mais j'insiste beaucoup sur l'applicabilité et qu'on retranche les cours qui ont tendance à apprendre à nos agents de police judiciaire ou de l'armée, à apprendre ce que c'est la torture. Parce que la torture a plusieurs formes, madame.
Oui.
Et on apprend même de forme à cacher cette torture-là. On apprend toutes des techniques. Il y a même des médecins, tout contraire, hein, des gens très intelligents qui se sont mis à table pour travailler sur la torture.
Oui.
Alors, je remercie beaucoup la Radio Capi et les sénateurs pour ce qu'ils sont en train de faire comme travail.
Merci beaucoup, Arsène, à partir de Kikui, qui est au Bandundu. Bonjour, Trésor. Trésor,
je m'écoute.
Oui, Trésor, vous êtes à Kongolo, c'est dans la province du Katanga. Dites-nous, quelle est la situation chez vous de torture?
Oui, je voulais juste savoir pour ma première question. Est-il autorisé de ligoter quelqu'un qui l'a volé ou qui s'est bagarré contre son ami?
Notre invité pourra vous donner une réponse par rapport à cela, mais est-ce que vous connaissez des cas de torture à Kongolo?
Bien sûr, il y a des gens qui sont arrêtés dans des cachets de la police, voire même au niveau du parquet. Les gens à qui on souhaite juste pour qu'ils renoncent les infractions, même s'ils ne les ont pas commises vraiment.
Mm-hmm.
C'est une déchéance ici à Kongolo.
Oui, et dites-nous, Trésor, vous pensez qu'est-ce qu'il pourrait être mis en place pour éviter, mettre fin à cette pratique?
Donc vraiment, il faut renforcer vraiment l'appareil judiciaire, parce que vraiment, ici, donc il y a la corruption qui coupe à son plein, donc tout est autorisé, on ne sait pas si la justice est juste ou pas.
Donc, lutter contre la corruption, lutter contre l'impunité, en renforçant en fait le système judiciaire. Merci, Trésor, à partir de Kongolo. Bonjour, Marcel.
Oui, bonjour, madame. Oui. Bonjour, madame Marie-Chantal.
Oui, Marcel, vous trouvez dans quel coin du pays?
Ok, je vous appelle depuis Kisangani.
Oui, Marcel, dites-nous, on vous écoute par rapport à cette pratique de torture.
Oui, ok, merci, j'ai suivi l'invité madame. Et sauf malheureusement, il se fait que dans certains milieux, vraiment, la torture bat son plein. Et surtout dans le coin et les recoins de la République.
Mm-hmm.
Nous savons tous, surtout la police et judiciaire, est là pour féconder le parquet dans le maintien de l'ordre public.
Mmh.
Et le plus souvent, nous constatons lorsque cette police judiciaire attrape un présumé, elle commence ipso facto à le malmener, à le maltraiter, même l'incarcérer au-delà des 48 heures. Bon, nous ne savons pas vraiment si réellement la torture sera bannie si toutes les familles de la République. Et ça, c'est un constat vraiment amer chez nous, surtout dans le coin, au niveau du centre-ville, au niveau des grands centres, il y a un peu de respect parce que nous avons les ONG qui s'occupent de.
Mais Marcel,
au niveau du coin, les recoins, dans les périphéries, vraiment la population souffre, madame.
Oui, Marcel, quand même, c'est une pratique qui n'est pas du tout bonne, qu'il faut en fait dénoncer, il faut lutter contre cette pratique. Mais dites-nous des propositions, c'est vrai que ce sera assez difficile, mais quand même, il y a un espoir, hein, il ne faudrait pas baisser les bras. Et qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour lutter contre cette pratique?
Oui, premièrement, madame, j'aimerais que le gouvernement mette dans chaque territoire le tribunal de paix, comme ça, ça pourra permettre à ce que le respect des droits de l'homme, c'est-à-dire la torture, soit un peu diminué. Parce que lorsqu'il y a des tribunaux de paix, là, il faut aussi une commission pour sensibiliser la population, parce que ça aussi, c'est un problème de mental de la population, entre elles qui se malmènent et tout comme ça, mais il faut une commission qui pourra initier la population à respecter la personnalité de physique et de son prochain, tout comme ça, et puis les tribunaux de paix de chaque territoire, parce que ces tribunaux seront proches de la population et à chaque fois la population pourra recourir à ces tribunaux de paix, madame.
Merci Marcel. Donc vous pensez qu'il faudrait sensibiliser la population sur ses droits, mais aussi rapprocher les tribunaux, le système judiciaire, donc les justiciers aux justiciables. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Marcel. Nous écoutons aussi Adrien, il est à Kalanga. On vous écoute.
Oui, Marie Chantal, merci beaucoup pour la parole. J'aimerais remercier d'abord l'honorable sénateur qui est dans le studio et puis l'initiateur même de cet acte-là. Ça fait vraiment très mal lorsque vous êtes ici à Kananga ou bien partout dans la province du Kassai occidental, voir comment est-ce que la torture s'effectue, ça fait vraiment mal et ça fait pitié. Mm-hmm. Et ce qui est bizarre et qui est grave, c'est quoi? Ce sont les services de l'État censés sécuriser la population. C'est ces services-là qui commettent toujours des mesures et puis des actes de torture. Moi, je pense, pour mettre fin à toutes ces, donc à toutes ces tortures-là, il faut ériger une infraction spéciale pour la torture. Pourquoi pas ne pas les faire comme on l'a fait avec les viols, hein, donc aggraver un peu la sanction pour condamner celui qui pourra tomber dans le filet de cet acte-là de torture, qu'il soit vraiment horriblement sanctionné et qu'on puisse même considérer la torture comme une matière flagrante. Donc lorsque quelqu'un commet cette infraction-là, qu'il soit directement jugé au lieu de suivre toutes les autres procédures. Et deuxièmement, pour mettre fin à ces tortures-là, je pense, on pouvait d'abord commencer à instruire d'abord les policiers, les militaires, pourquoi pas même certains agents de la SNCC, parce qu'ils commettent tous donc la torture, surtout lorsque vous n'avez pas un billet, lorsque vous êtes battu, lorsqu'il y a quelque chose qui n'avance pas, vous êtes vraiment torturé, c'est comme si vous avez même tué quelqu'un.
Merci beaucoup pour votre intervention à partir de Kananga. C'était Adrien. Nous prenons la dernière intervenante de cette première série. Bonjour Merveille. Merveille?
Oui.
On s'excuse, on pensait que c'était une femme. Merveille, on vous écoute, vous êtes en Mbujimayi. Nous avons perdu Merveille de Mbujimayi. Donc, nous allons continuer cette émission. D'autres auditeurs sont en train d'attendre pour pouvoir participer à cette émission. Nous avons invité pour cela l'honorable Mongoulou. Il est en fait sénateur et initiateur d'une proposition de loi portant criminalisation de la torture. Bon, papi,
50 ans d'histoire, ça se raconte sur Radio 4.
Eh bien, monsieur le sénateur, vous avez suivi nos auditeurs, beaucoup de propositions, hein, c'est pertinent. Ils pensent que vraiment, il faudrait changer carrément le comportement, certaines mentalités qui sont ancrées, qui pensent que la torture, c'est quelque chose de normal. Votre réaction, monsieur le sénateur?
Oui, ben, je suis agréablement surpris de constater que je n'étais pas seul dans cette lutte-là. Nous sommes nombreux à vouloir lutter contre la pratique de la torture chez nous. Et leurs propositions, j'estime qu'elles sont très pertinentes. Alors, je voudrais répondre d'abord à Trésor qui vous a posé la question, est-ce qu'il est autorisé de ligoter?
Oui, si vous pouvez vous rapprocher du micro.
Oui, oui. Voilà. Il faut ligoter quelqu'un. Là, il s'agit plutôt d'une application, c'est-à-dire que des personnes qui sont chargées de l'application des lois, eux, ils sont utilisés, plutôt elles sont autorisées à utiliser la force. La force.
C'est une résistance.
Voilà, s'il y a une résistance. Mais cette force doit être proportionnelle à la situation qu'il doit pouvoir affronter. Et tout ça, il y a des règlements qui doivent régenter l'ensemble de la situation. Parce que n'oubliez pas, il existe également un droit de l'homme, des personnes détenues. Et ça, vous devez respecter ce droit-là. Je crois que nous avons pu répondre à Trésor.
Oui.
Alors, il y a Adrien de Kananga qui a parlé de sévérité dans ce que nous proposons comme sanction. Effectivement, nous avons proposé des sanctions sévères qui vont aller jusqu'à la détention à perpétuité lorsqu'il y a mort d'homme à la suite de tortures. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous avons, à la suite de la communauté internationale, demandé à ce que les infractions qui sont liées à la torture ne puissent jamais être prescrites. Cela veut dire que lorsque vous commettez cette infraction, jusqu'à votre mort, vous pourriez toujours être poursuivi.
Ah,
il n'y a que la mort qui puisse faire en sorte que vous ne soyez plus poursuivi. Voilà, et c'est ça ce qui est beaucoup plus sévère. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, sont policiers, militaires et tout ça, ils sont torturés. Demain, s'ils ne sont plus dans l'armée, dans la police, on peut toujours les poursuivre. Donc ça, ils doivent le savoir, qu'ils sont en train d'hypothéquer leur avenir jusqu'à leur mort.
Mais en attendant que cette loi soit promulguée, maintenant ce n'est que c'est des situations aggravantes, donc pour l'instant, ils ont quand même une certaine latitude, si on peut dire ça.
Il n'y a pas de latitude, il y a toujours des poursuites, mais moins graves et qui n'attirent pas beaucoup l'attention. Mais c'est ça la raison d'être de notre proposition de loi, faire en sorte que cette infraction soit considérée vraiment comme une grave infraction et qu'il puisse être sanctionné sévèrement.
En entendant, en écoutant les propos de nos auditeurs, on a l'impression que la torture ne peut être faite que par les auteurs de torture, ne peuvent être que des agents de sécurité. Est-ce que c'est le cas?
Oui, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont soit fonctionnaires, soit chargées de services publics, il a cité la SNCF et tout ça, des personnes qui, sans être fonctionnaires, mais qui ont quand même la qualité pour exercer la fonction publique, ceux-là également sont poursuivis. Mais alors, l'ensemble des communs de mortels, ce sont d'autres infractions et tout ça qui sont prévues à leur enfance.
Donc, un enfant, un parent qui tape violemment son enfant, est-ce que c'est une torture?
Non, un coup et blessure volontaire et ainsi de suite.
Donc, il y a une catégorisation, on peut dire.
Donc, l'infraction vise surtout les personnes, les fonctionnaires et les personnes chargées des services publics ou qui ont été choses mandatées par elles, par ces fonctionnaires-là.
Mais quand on parle souvent de traitements cruels, inhumains, est-ce que ça fait aussi partie des tortures?
Ça fait partie des tortures. La torture est plutôt un traitement cruel et inhumain.
Même l'outrage à la dignité de la personne.
Voilà.
Oui, ça fait partie. Nous avons bout du fil. Monsieur Louis-Marie Boisca, il est le directeur intérimaire du bureau du bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. Lui aussi, ce bureau reçoit souvent les rapports, ils font même un monitoring de la situation des droits de l'homme. Il pourra nous donner, s'exprimer à propos de ce sujet concernant la torture.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Louis-Marie Boisca.
Oui, bonjour, Marie Chantal.
Vous êtes directeur ad intérim du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc, vous recevez couramment en fait, les rapports des ONG de défense des droits de l'homme sur la torture, mais aussi vous faites un monitoring en fait, de la situation des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous dire en fait quel est l'état de lieu de la torture en RDC?
Oui, merci de pouvoir me donner cette opportunité. Il existe bel et bien des cas de torture ou alors la pratique de la torture en République démocratique du Congo. La torture est souvent utilisée pour obtenir des aveux et ceux qui la pratiquent ne sont pas toujours conscients que cet acte constitue une infraction. Maintenant, nous cherchons, disons, par le biais du Parlement, à obtenir l'autonomie, notamment, de cette infraction. Et la torture est pratiquée surtout dans les lieux de détention officiels ou non officiels, car les lieux de détention non officiels existent en République démocratique du Congo.
Mm-hmm.
Et il y a aussi le bureau des OPJ, surtout la torture est pratiquée lors des interrogatoires. Et certains cas de torture sont répertoriés dans les prisons, notamment sur les prévenus.
Mm-hmm.
Vous allez certainement me poser une question sur les causes, notamment de la pratique de ces tortures. Mais ces causes, je peux vous dire qu'elles sont multiples. Il y a, entre autres, la méconnaissance des normes internationales et nationales relatives à la prohibition de la torture. Vous savez que la torture est strictement prohibée par la Constitution de la République démocratique du Congo. Et il faut être... C'est clair que la pratique de la torture ne fait pas partie de la politique de l'État. Ce sont des actes qui sont pratiqués dans certains services, mais qui ne sont pas officialisés par l'État.
Mmh.
Et il faut noter aussi la mauvaise foi de ces personnes qui pratiquent la torture. Il y a un élément important que je voulais dire, c'est l'impunité des tortionnaires.
Mmh.
Parce qu'il y a souvent absence l'ouverture d'enquête. Quand on parle de l'impunité, je vais vous dire qu'il y a deux sortes. Il y a l'impunité de fait et puis l'impunité de droit. Mais là, il y a l'impunité de fait parce qu'il n'y a jamais, pas jamais, parce que nous avons des cas où des enquêtes ont été ouvertes et que les auteurs ont été condamnés. Mais le plus souvent, c'est l'absence de l'ouverture de l'enquête.
Mmh.
Et c'est ça qui occasionne souvent la recrudescence des cas de torture.
Mmh.
Et vous savez que les autorités en sont conscientes, puisque les rapports qui sont soumis par la République démocratique du Congo devant les instances internationales, que ce soit devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, que ce soit devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à Banjul,
mmh.
et le gouvernement a toujours mentionné la préoccupation par rapport à la pratique de la torture.
Mmh.
Oui.
Alors, et quelles sont les propositions ou bien des recommandations pour mettre fin à cette pratique?
Très bien. Il y a souvent, on parle souvent de 10 points fondamentaux visant à lutter contre la torture. 1. Il y a la condamnation de la torture parce qu'il faut la condamner.
Mmh.
Les dirigeants politiques doivent condamner la pratique de la torture. 2. Veiller à ce que, qu'en cas de torture ne puisse être commis. Il doit y avoir le contrôle régulier des supérieurs hiérarchiques. Et là, sur ce point, nous nous félicitons de la récente instruction donnée par, prise par l'auditeur militaire général, le général Pondé, qui a instruit tous les auditeurs militaires. C'était les auteurs militaires d'accentuer le contrôle, notamment des lieux de détention et de sanctionner les OPJ qui se seraient reconnus coupables d'actes de torture, de leur retirer la qualité, disons, l'habilitation de qualité d'OPJ. Ça, c'est très important. Et 3, il faut enquêter et traduire en justice les responsables présumés, parce que souvent, on remarque qu'il y a des enquêtes, certaines enquêtes sont ouvertes. Et qui n'aboutissent pas, pourtant les faits sont là. Et, et encore un autre point, c'est le point 4, c'est de pouvoir garantir la réparation. Les victimes d'actes de torture doivent avoir droit à des réparations et à des mesures de réadaptation. L'accès des victimes à la justice est un droit fondamental. Mais souvent, on remarque que les victimes d'actes de torture ont parfois peur des représailles et s'abstiennent de faits en justice. Et le cinquième point, c'est d'assurer la formation en droit de l'homme des agents chargés de l'application des lois, notamment les inciter à s'opposer à la torture. Nous le faisons régulièrement dans les formations, mais disons, le problème est plus profond parce que ça rentre à peu près dans la culture, donc il faut aider à changer cette technique.
Donc ça doit être continu, cette formation.
Exact. Et le point 6, qui est aussi important, c'est d'interdire les lieux illégaux de détention. Car ces lieux existent. et les tortures y sont pratiquées.
Mm-hmm.
Personne ne visite, disons, ni les autorités judiciaires, ni les organes des droits de l'homme n'ont pas accès à ce lieu et tout est permis dans ce lieu.
Mm-hmm.
Et le septième, c'est de veiller à ce que les conditions de vie dans les centres de détention soient satisfaisantes. Parce qu'on parle souvent de torture physique, mais il y a aussi des tortures morales. Il y a certaines personnes qui sont détenues dans des conditions indécentes,
mm-hmm.
et c'est une forme de torture morale. Et le huitième, c'est d'autoriser l'accès des centres de détention, d'abord aux autorités judiciaires, y compris les avocats, et puis aux ONG des droits de l'homme, qui c'est un moyen non financier de prévenir la torture.
Mm-hmm.
Et le point 9, c'est d'informer la famille d'un détenu en cas de cancer. Lorsqu'on transfère un détenu d'un endroit à un autre, il faut informer la famille. Parfois, on mystifie le lieu là où on a transféré l'individu, ou bien par mauvaise foi, parce que l'individu aurait subi des actes de torture. Il y a des sévices, on peut remarquer facilement les sévices corporels, et quand on cache l'individu jusqu'à ce que les traces puissent disparaître.
Mmh.
Or, pour lutter contre la torture, il faut informer la famille que l'individu a été transféré à tel endroit et que la famille est accès à cet individu.
Mmh.
Enfin, le point 10, c'est de prohiber la disparition forcée ou involontaire.
Mmh.
Voilà, pour ça, le moyen qui sont communément reconnus
mm-hmm.
dans les, disons, dans la lutte contre la torture.
Merci beaucoup, Monsieur Louis-Marie Boaka. Je rappelle que vous êtes le directeur ad intérim du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et vous avez donné des recommandations comment on peut en fait mettre fin à cette pratique. Bonjour Jean.
Et bonjour, bonjour.
Jean, vous êtes à Kananga, on vous écoute, Jean.
Oh oui, j'interviens pour vous dire ceci. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des pratiques bizarres, vraiment, avec les agents de l'ordre, appelément communément la police, vraiment, avec les cas de torture.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, si quelqu'un a commis le vol ici, ils se sont bagarrés, vraiment, les agents de l'ordre, appelés la police, vraiment, torturent des gens, vraiment, jusqu'à un traitement inhumain.
Mm-hmm.
Et les gens ne fonctionnent pas la constitution congolaise, vraiment.
Mm-hmm.
Alors, nous demandons à l'État congolais de pouvoir ériger ces comportements de torture en une infraction. Parce que de l'autre, ces comportements, mais seulement s'ils constituent des circonstances aggravantes et qui peuvent aggraver une infraction, ou bien une arrestation arbitraire. Jusqu'à les gens, ce sont les agents de l'ordre, n'atteignent pas contre vraiment.
Mm-hmm.
Ils torturent des gens jusqu'à un certain niveau vraiment, et qui poussent à certaines personnes de dire que. Et nous ne sommes pas dans un état de droit.
Merci. Merci Jean pour votre participation à cette émission. Bonjour KMB.
Bonjour. J'interviens de Kananga pour juste féliciter toutes les recommandations, les bonnes recommandations bien écrites là, qui restent toujours dans les tiroirs. On ne sait même pas les appliquer. Mais ce qui est marrant est que les grandes tortures, les tortures dont on parle ici, dont vous voulez parler, sont les tortures pratiquement étatisé. Les cas qu'on est que voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a. Mais la classe, on va se plaindre. Vous croyez que c'est ce même État qui est en train d'accepter ces tortures-là, qui est vraiment songé à ce qu'un jour il y ait droit de l'homme au pays? Mais c'est impossible, madame, je vous dis.
Mais entre-temps, est-ce que nous devons croiser les bras? Est-ce que nous devons regarder tout ce qui se passe avec indifférence? Quelles sont vos propositions pour pouvoir lutter contre ces pratiques-là?
Nos propositions sont les suivantes. Mes propositions sont les suivantes. Qu'on laisse à la justice le droit de pratiquer la justice. Qu'on laisse la justice le droit de pratiquer. Je vais vous donner un exemple, madame. Comment est-ce que moi, je suis un civil? J'ai commis je ne sais quoi là-bas. Parce qu'un tel a une relation avec l'auditorat militaire. Il va me porter plainte au niveau de l'auditorat militaire. L'auditorat militaire connaît ce que je dois faire.
Mm.
Par contre, l'auditorat militaire va maintenant me prendre et me torturer là-bas jusqu'à me mettre même à l'hôpital, madame.
Mm.
Vous rendez compte que nous sommes dans un état de droit.
Donc,
nous sommes comme ça. On les accepte inutilement comme ça.
Donc, il y a aussi un trafic d'influence.
Si tu es en extraction, cette pratique-là, et en ce moment-là, qu'on, quand je vais le faire, qu'on le sache qu'il y a torture, puni par cette loi, il y a ce, j'ai suivi le sénateur, ce qu'il dit là-bas. Mais c'est bien beau.
mais qu'on est tout ça à l'infraction, et à ce moment-là, nous saurons à quoi nous en tenir, madame.
Vous savez quand même, KMB, que c'est tout. Il y a toute une procédure, hein, déjà, le fait que ce soit adopté au niveau du Sénat, que ça se trouve pour l'instant au niveau de l'Assemblée nationale, ça signifie que c'est tout un mécanisme qui est mis en place, mais heureusement que ça a déjà commencé. Merci beaucoup, KMB, pour votre participation. Nous allons écouter tout juste après quelques instants Madame Maciala, elle est avocate.
Parole aux auditeurs.
Madame Maciala, on vous écoute, vous êtes avocate, donc vous connaissez, vous traitez souvent des victimes, vous assistez des victimes de torture. Comment ça se passe?
Merci pour la parole, mais je voudrais donner une précision. Je ne suis pas avocate, je suis magistrat. Et pour ce qui est de l'instruction de dossiers pour les victimes de torture, dès que nous sommes saisis de ces faits-là et que la victime vient dénoncer, nous ouvrons une enquête. Et c'est sur base de cette enquête-là que nous allons poursuivre les auteurs qui ont commis ces faits de torture.
Et souvent, comme nous l'avons soulevé au cours de cette émission, la torture et le mensonge n'est pas vraiment prise en compte. C'est tout simplement un acte qui peut aggraver la situation. Mais dans ce cas-là, comment vous traitez une personne qui vient se plaindre en disant qu'elle a été torturée?
Oui. Ce qu'il faut retenir d'abord est que le législateur n'a pas défini la torture, mais c'est la jurisprudence qui a eu à préciser cette notion.
Mm-hmm.
D'après la jurisprudence, par torture corporelle, il faut entendre entendre des sévices très graves, des actes cruels, inhumains et dégradants, ou encore des actes de barbarie exercés dans le but de causer une souffrance. Donc, par là, vous pouvez avoir le cas de quelqu'un qui vient se plaindre parce qu'il a été ligoté, par exemple, au moyen d'une corde, quelqu'un qui a subi des coups pendant qu'il était en détention, par exemple dans un poste de police. À ces gens-là, nous aurons une enquête judiciaire et c'est sur base de cette enquête-là, nous allons poursuivre les auteurs de ceux qui ont commis ces faits-là.
Mmh. En écoutant en fait nos auditeurs, on a l'impression qu'ils souhaitent qu'on puisse renforcer le système judiciaire, donc on sent en eux qu'ils ont en fait, ils n'ont plus vraiment confiance en ce système judiciaire. Il y a même un qui a parlé de corruption, de trafic d'influence. Et dites-nous un peu comment ça se passe chez vous. Quelle est votre réaction face à ces accusations?
Bon, je me dis, toutes ces déclarations-là n'engagent que lui-même et que ça peut ou ne pas exister. Mais moi, je crois qu'il ne faudrait pas aller par des cas très précis.
Mmh.
Bon, si il a eu à être peut-être victime ou découragé par ces pratiques-là, ce que je peux lui demander, c'est pas d'oublier, de saisir la justice, renouveler sa confiance à la justice et dénoncer ces cas-là. Parce que je sais qu'il y a des cas de condamnation sur ce fait-là et qu'il y a eu des dossiers ou des cas que les justiciables nous ont saisis et ces cas ont été sanctionnés. Nous avons même des cas des OPJ à qui nous retirons l'habilitation au cas où ils commettent des actes de torture.
Mm-hmm.
Donc, ce que je peux lui dire pour l'instant, c'est de faire encore confiance à la justice et de soutenir la justice et dénoncer tous ces faits-là.
Merci beaucoup. Madame Marie-Claire Marciala, vous êtes magistrate et substitut du procureur. Merci pour votre intervention et d'avoir accepté de répondre en fait à nos questions. Nous poursuivons cette émission dans ce studio. Nous avons invité pour vous parole aux auditeurs, Monsieur Polycarpe plutôt M. Polycarpe Mongoulou. Il est sénateur et initiateur d'une proposition de loi portant criminalisation de la torture, mais aussi c'est un procureur général de la République émérite. Donc vous connaissez un peu le système judiciaire de la RDC, vous y avez travaillé pendant plusieurs années, vous avez suivi des auditeurs qui disent, en fait, qui pensent qu'ils n'ont plus confiance en cette justice et qu'ils voudraient renforcer la justice concernant, en fait, ce sujet de torture. Qu'est-ce qu'il faudrait être fait à ce niveau-là?
Oui, il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire que, en fait, ce que nos auditeurs sont en train de dire, c'est le dysfonctionnement de la justice.
Mmh.
Et le dysfonctionnement tourne vite au manque de confiance. Le problème de la justice congolaise, c'est que les pouvoirs publics, et ils ont une justice, ils ont mis au point une justice normalement de pauvres,
mmh.
mais on veut obtenir les résultats de justice où on investit réellement.
Mmh.
Donc, on met trop peu de moyens, mais on veut quand même avoir de grands résultats. C'est ça le problème de la justice dans notre pays. Donc, si on veut réellement redresser la justice, il faut commencer par la base. D'abord, les infrastructures. Une justice qui n'a pas de moyens de locomotion, de ceci, cela. Comment vous voulez que ça fonctionne? Une justice qui manque jusqu'au papier, au point de demander le papier à des justiciables. Comment vous voulez que ça marche? Une justice où des personnes qui y fonctionnent, soit des fonctionnaires, soit des magistrats, et ils ont toujours à réclamer que leur situation n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle justice? Voilà le problème de la justice congolaise. Il faut, dès qu'on parle réforme, on court vite à l'espèce des lois. Non. Il faut qu'on mette tous les ingrédients ensemble pour obtenir de meilleurs résultats. À partir de ce moment, on peut s'attendre à ce que la confiance qui disparaît petit à petit entre la population et sa justice puisse de nouveau renaître.
Mmh.
Voilà ce que moi je pense de cette histoire. Et vous avez bien dit, j'y ai travaillé pendant 28 ans.
Mmh.
J'y ai perdu toute ma jeunesse. Et je vous dis que petit à petit, on est en train effectivement de perdre confiance en la justice.
Petit à petit.
Voilà.
Nous allons aussi écouter Maître Moussengui, cette fois-là aussi un avocat qui va donner aussi son impression concernant la torture. Au Capi.
50 ans d'histoire. Ça se raconte sur Radio Capi.
Maman, au Capi. Bonjour, Maître Moussengui.
Bonjour, Radio Capi.
Oui, on vous écoute. Quel est votre témoignage par rapport à la torture?
Je voudrais dire ceci, que la question de la torture, c'est une question très délicate et même très importante. Notre pays a adhéré depuis le 18 mars 1996 à la Convention des Nations Unies du 10 octobre, du 10 décembre 1984, pour lutter contre la torture.
Mm-hmm.
Mais depuis lors, il n'y a pas une volonté affichée des responsables congolais pour pouvoir prendre de la vitesse et de l'envol en ce qui concerne la criminalisation de la torture.
Mm-hmm.
Parce que c'est que l'État civil pousse à croire que l'État est quelque part responsable ou bien complice des actes de torture qui sont commis le plus souvent par les préposés de l'État.
Mm-hmm.
Et je voudrais aussi dire que j'entends que c'est seulement les OPJ ou bien les policiers qui torturent, mais il y a aussi des magistrats fonctionnaires. Moi, j'en connais.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là?
S'il vous plaît?
Qu'est-ce que vous voulez dire par des magistrats torturnaires?
Ce sont des magistrats qui, à l'occasion de l'instruction d'un dossier judiciaire, ils procèdent aux actes de torture, parfois des tortures physiques, parfois des tortures morales. Donc, cette question des tortures ne concerne pas seulement les OPJ. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, ils commettent des actes, ils ne sont pas inquiétés, ils sont libres, c'est comme si c'était une pratique normale. Moi, je pense qu'avec la loi qui est en chantier, les autorités responsables devraient prendre toutes les dispositions pour que très rapidement les actes de torture soient criminalisés.
Mmh.
Mais au-delà de ça, il faudrait aussi que les actes qui sont commis à comportement de torture, même si actuellement la torture n'est pas encore une infraction, mais que les responsables qui commettent les tortures physiques soient quand même poursuivis de manière exemplaire sur base des dispositions du code pénal pour les blessures volontaires. Mmh. Peut-être parce que ces coups sont aggravés que les sanctions soient aussi aggravées.
Mmh.
Parce que attendre que la loi soit disponibilisée en traitant les actes de ce commerce, je crois que c'est une période où des personnes éligibles sont exposées aux actes de torture et que justice ne saura pas être rendue lorsque ces actes-là ne sont pas réprimés.
Merci beaucoup. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, on vous écoute.
Oui, je voudrais terminer pour dire que l'État doit faire la prise de conscience que lorsque les actes de torture sont faits par les étrangers, l'État a une responsabilité. Parce que c'est une responsabilité administrative, ça peut être une responsabilité civile. Je sais que l'État pourra aussi, être poursuivi sur le plan civil lorsque un des agents est reconnu coupable des actes de torture, l'État en prendra la responsabilité pour réparation. Je crois que c'est quelque chose qui doit interpeller les responsables pour que très rapidement les lois soient disponibilisées et qu'on puisse éradiquer les actes de torture.
Merci beaucoup, Maître Mukendi, pour votre intervention. Bonjour, Bernard.
Bonjour.
Bernard, vous êtes à Guémena, on vous écoute. Quelles sont vos propositions pour pouvoir mettre fin à cette pratique?
Je vais proposer la suivante, parce que
S'il vous plaît, Bernard, la ligne vraiment n'est pas bonne. Le temps que vous puissiez vous déplacer, soyez un endroit assez calme. Comme ça, on va pouvoir vous récupérer tout juste après Joseph, qui est en Boujimaï. Bonjour, Joseph.
Bonjour, madame.
Oui, Joseph, quelles sont vos propositions?
Au consort.
Mm-hmm. Mm-hmm. Quelles sont vos propositions, vraiment, Joseph?
Ici, d'abord, nous tenons à remercier le général Patience Moussidi, qui est de la police ici, hein.
Mm-hmm.
Puisque nous avons remarqué, il y a un certain temps où il y a un peu la recrudescence de torture dans nos milieux de détention.
Mm-hmm.
Alors, tenons d'abord à remercier cela sincèrement. Mais malgré cela, nous remarquons que dans certains quartiers, au niveau des chefs de quartier, il y a des chefs de quartier qui continuent à pratiquer la torture. Hein. C'est pourquoi vraiment nous déplorons cela. Et nous avons quelques propositions à vous faire, madame.
Donc, Joseph, vous êtes activiste des droits de l'homme, vous visitez souvent les cachots et les lieux de détention, et vous avez constaté qu'on a réduit, il y a de moins en moins des cas de torture, c'est ça?
Oui, je suis syndicaliste. Hein.
Oui,
par rapport aux dernières années, vraiment, puisque le général a pris un certain mécanisme, il a donné son numéro presque à toute la population. Et dès que vous constatez cela, c'est ce que même je voudrais proposer, dès que vous constatez cela, vous l'appelez lui-même en personne.
Mmh.
Et dans quelques instants, soit c'est lui, soit c'est ce service qui descend pour voir dans quel cachot, dans quel endroit est-ce qu'on intervient. Même si c'est la nuit, ça nous témoignons, puisque nous ne devons pas seulement toujours condamner, mais nous devons aussi encourager les bons actes qui sont posés par les autorités.
Mmh.
Mmh. C'est pourquoi je voudrais aussi proposer cette méthode-là. Si dans nos différentes provinces, les responsables des autorités différentes peuvent donner leur numéro, puisque ce sont des pratiques qui se pratiquent dans les coins différents et les recoins de villes, mm-hmm. et les différents centres de banlieues.
Donc, il y a une meilleure communication entre la population et les autorités et la de la sécurité.
Mm-hmm.
Bon, merci beaucoup, Joseph, pour votre proposition. Nous revenons à Bernard, nous espérons que cette fois-là la ligne est bonne. Bonjour, Bernard.
Oui,
quelques propositions parce que nous sommes presque à la fin de l'émission.
Oui, la proposition de tout conseil national. Je voulais seulement qu'on puisse donner un message au niveau des procureurs pour qu'ils puissent former les OPJ. Parce que les OPJ, ils n'ont pas vraiment de suffisamment de formation sur ce qu'on fait à sortir.
Mm-hmm.
C'est à l'heure pour aussi sensibiliser et puis former aussi les policiers qui aillent pour arrêter les gens. Parce qu'il y a, lorsqu'on envoie les policiers pour qu'ils aillent à arrêter les gens, ils arrivent d'abord là-bas à commencer d'abord à sortir la gare. Et ce qui est le contraire, ce qui est punissable notre constitution de la République.
Mm-hmm.
Et la seule message de ma question, les procureurs puissent se sensibiliser, puissent former efficacement les policiers pour qu'ils aient à leur tour aussi de former les policiers afin que toutes ces pratiques.
Merci. Merci beaucoup, Bernard. Vous êtes à Guémena. Vous pensez qu'il faudrait recycler, former, renforcer les capacités. Nous donnons maintenant la parole à l'honorable Louongue Kibinda. Il est sénateur pour qu'il puisse aussi nous donner ses propositions en vue de lutter contre cette pratique. Bonjour, honorable.
Bonjour, madame. Bonjour.
Oui. Pour l'instant, vous êtes à Lubumbashi. On vous écoute.
Oui, je suis à Lubumbashi, comme vous le savez, en vacances parlementaires. Je suis un peu dans mon milieu, en train de me promener. Je suis heureux que vous m'ayez attrapé, n'est-ce pas, en cours de route. En ce qui concerne la pénalisation, comme nous avons appelé, de la peine de torture, vous savez, je pense que l'auteur, comme je vous l'ai dit, l'auteur de la proposition de loi vous a donné toute l'explication nécessaire pour en comprendre la portée.
Mmh.
Eh bien, normalement, suivant notre loi, qui était de portée coloniale, comme vous le savez, la torture était considérée simplement comme une circonstance aggravante légale de l'infraction, des coups de blessure volontaire simple ou grave ayant entraîné telle ou telle conséquence.
Mmh.
Mais maintenant, compte tenu de ce que, n'est-ce pas, l'opinion mondiale s'est émue à plusieurs endroits et à plusieurs occasions, lorsque c'est la chose de ces infractions a été commise avec des tortures, et parfois des tortures isolées, qui entraînaient parfois des conséquences très graves, très dommageables sur les personnes. Nous sommes arrivés d'abord les Nations Unies, comme on vous a dit, les instruments internationaux, etc. Et nous avons pensé qu'il fallait emboîter les pas, c'est ainsi que nous avons approuvé l'initiative de l'honorable Mungulu, qui a fait la proposition de loi que nous avons approuvée.
Oui, mais quelles sont, à votre niveau, les propositions? Par exemple, quand vous êtes à Lubumbashi, c'est vrai que peut-être il y a aussi des cas de torture dans certains lieux d'incarcération, de détention. Quelles sont vos propositions, en fait, pour mettre fin à cette pratique?
Eh bien, je corrige d'abord, ce n'est pas seulement dans les lieux de détention et d'emprisonnement, non. C'est dans la vie publique. Un individu qui commet, n'est-ce pas, une infraction, prenons une infraction, des vols, et parfois même l'infraction n'est même pas encore prouvée, on n'a même pas encore prouvé que c'est cette personne-là qui a commis l'infraction, eh bien, on le passe à tabac, on le menote d'une façon, parfois à lui laisser des séquelles. Ce sont des tortures graves que nous déplorons. Ça se passe partout, sur toute l'étendue de la République.
Mais quelles sont vos propositions?
Mais aussi à Lubumbashi.
Quelles sont vos propositions, voilà, pour mettre fin à cette pratique?
Eh bien, je pense que c'est la considération que nous avons émise dans ce texte de loi. Ce sont des mesures accompagnées, des bonnes mesures. Certainement, on va lutter d'abord par le fait de légalisation ou de pénalisation des tortures. On va lutter contre la torture. Mais il faut en plus, étant donné qu'aujourd'hui, la protection des personnes humaines, c'est non seulement à la mode, mais on en parle dans tous les pays du monde. Eh bien, pour y arriver, il faut former les gens. Nous commençons par la police. La police qui est sous-informée sur les droits des autres, n'est-ce pas, sur les droits des citoyens, et qu'ils respectent rarement.
Excusez-nous, vraiment, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Merci pour votre intervention. Et tant qu'on puisse aussi donner la parole à notre invité pour conclure cette émission et réagir face aux déclarations des auditeurs, nous vous remercions pour votre disponibilité. Honorable Mungulu, vous avez suivi les auditeurs. Là, c'est la dernière série d'auditeurs, même ceux qui ont précédé. On est arrivé à la fin de cette émission pour conclure une réaction par rapport à ce qu'ils ont dit.
Oui, je remarque tout simplement, je fais observer que tout le monde, pratiquement à l'unanimité, voudrait lutter contre la torture.
Mmh.
Arriver à faire en sorte que la torture ne soit plus vue à travers l'ensemble de la planète.
Mmh.
Et nous, les Congolais, nous ne sommes pas demeurés honnêtes.
Mmh.
Et la preuve est que tous vos auditeurs, effectivement, déplore ces cas et vous ont fait des propositions pour pouvoir lutter contre cela. Et nous, comme législateurs, nous avons emboîté les pas à cette opinion pour faire une proposition de loi portant criminalisation de la torture, pour aider non seulement notre population qui nous occupe de la torture, mais également les pouvoirs publics qui se sont engagés vis-à-vis de la communauté internationale afin d'ériger les actes concrets de la torture en infraction de notre pays. Et nous, nous avons eu cette chance-là de nous retrouver au Sénat à ce moment précis et nous avons fait cette proposition. Et nous demandons à ce que nos collègues, les députés nationaux, puissent également hâter le pas pour que nous puissions finalement avoir un texte. Il demeurera alors le problème de l'application de ce texte-là. Mais, comme a dit certains de vos auditeurs, et ils ont raison, on doit commencer dès le bas âge à lutter contre la torture. La mentalité doit pouvoir changer. Et petit à petit, dans nos lieux de travail, lorsqu'on sera autorité, on sait déjà qu'on ne peut pas torturer quelqu'un impunément. Voilà, madame, ce que je peux tirer comme conclusion
en tout cas,
de cette émission.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission sur la Journée internationale pour le soutien aux victimes des tortures, l'émission consacrée aux propositions pour mettre fin en fait à la torture, dont nous avons eu comme invité M. Polycarpe Mongoulou. Il a répondu, il est sénateur, initiateur d'une proposition de loi portant criminalisation de la torture, mais aussi c'est un procureur général de la République émérite. Nous disons également merci aux auditeurs pour leur intervention.
Allô? 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 Qui ne répond pas?
Le prochain rendez-vous avec Parole aux auditeurs, c'est pour lundi. Nous parlerons des mouvements de grève constatés dans l'administration publique et dans certaines entreprises du portefeuille de l'État. Les questions, quelle est la situation chez vous et comment y remédier? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiotapis.net. Merci à Titi Poutou, à Belia Makinda, à Nicole Ngaka qui ont produit cette émission, sans oublier Nimi Kindou qui était à la mise en onde. Marie-Chantal Lumba est à la présentation. À lundi, entre-temps, restez branchés sur Radio Capi pour la suite de ces programmes.